La fois passée, nous avons abordé à travers les 18 premiers versets de Matthieu chapitre 6, nous avions parlé de la question de la piété. Et je voudrais terminer le chapitre 6, puisque nous avions fait les 18 premiers versets, je voudrais terminer le chapitre 6, et toujours avec cette question de la piété. Souvenez-vous, comment suis-je arrivé à parler de la piété? C'était par rapport au fait que, finalement, ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, nous chrétiens, c'est l'intimité avec Dieu. C'est d'être le plus près avec Dieu. C'est d'être au quotidien avec Dieu. C'est vivre notre vie avec ce face-à-face permanent avec Dieu, ce vis-à-vis permanent avec Dieu. Nous avons besoin que dans notre vie, Dieu soit la personne la plus proche de notre vie, celle dont on se réfère dans nos conversations, celle vers laquelle on va naturellement en premier lieu, celle vers laquelle nos pensées vont d'abord. Celle qui investit notre vie, influence nos décisions, influence nos choix. La personne qui compte le plus pour nous et qui finalement donne tout le sens à toute la vie que nous avons. Pourquoi c'est important? La fois passée, j'avais évoqué le fait que nous constatons de plus en plus que notre société se déchristianise. Partout, nous perdons de plus en plus de l'importance et de l'influence. Et j'ai dit, est-ce que c'est la faute? Est-ce que c'est la faute du diable? Est-ce que c'est parce que le diable est plus fort que nous? Non! Non! C'est un peu comme un joueur qui dit, l'adversaire ne m'a pas battu, mais je n'ai pas moi-même été à la hauteur de mes propres performances. Le diable ne peut pas nous vaincre, mais nous pouvons nous laisser vaincre par le fait que nous ne faisons pas tout ce qu'il nous faut. Il est vrai, on va me dire, oui, c'est la fin des temps, Gaston, c'est la fin des temps, on sait très bien qu'à la fin des temps, les choses vont être compliquées, ça va être difficile, et c'est pour ça qu'il faut dire, ok, on laisse tomber, on ne fait plus rien. On fait la résistance, mais à distance. Alors, vous savez cette sorte de résistance où tu résistes en reculant, là, vous savez? Non, c'est pas ça. Nous avons besoin de cette relation de piété, cette relation d'intimité avec Dieu, parce que grâce à cette relation, nous allons être de plus en plus forts spirituellement, de plus en plus à même de répondre pas seulement à nos besoins personnels au niveau spirituel, pas seulement les besoins de notre entourage, mais les besoins de ce monde. C'est ce que je disais la fois passée. L'intimité s'ancre dans la piété. C'est pour ça qu'on parle de la piété, parce que notre intimité trouve sa force dans la piété. Donc il nous fallait comprendre c'est quoi la piété. Et la fois passée, nous avons vu que la piété était un ensemble d'actes que nous posons. Ça se manifeste par des exercices spirituels. Ce sont des actes que nous posons qui vont développer cette piété en nous. Dans le chapitre 6, on a invoqué trois actions qui développent notre piété. La prière, les aumônes, le jeûne. C'est ce que nous avons vu. Je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être juste avant de démarrer, avant de lire le texte, rappeler ce que c'est que la piété. La piété, c'est une manière de vivre qui honore Dieu. C'est une manière, c'est une attitude de révérence, de soumission et d'obéissance à Dieu. C'est une manière de vivre séparée de du monde et consacrée à Dieu. Mais la piété n'est pas le fruit de nos efforts, puisque Dieu nous donne par le Saint-Esprit tout ce qui contribue à une vie pieuse. Ça ne dépend pas du légalisme. Je ne dois pas dire « je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça » pour vivre la, pour m'exercer la piété. Ça ne dépend pas de la loi, puisque il s'agit de, en l'occurrence, de Dieu qui est à l'œuvre dans ce, dans cet exercice. Je vous invite maintenant à lire Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vêtira-t-il pas à plus forte raison? Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc le thème, c'est « Notre intimité trouve sa force dans la piété ». Et je voudrais achever cette façon de comprendre ce que c'est que la piété. La piété, nous avons compris d'abord la première fois que c'est, ça se réalise à travers des actes que nous posons. Des actes qui témoignent notre engagement, des actes qui témoignent notre fidélité, des actes qui témoignent que nous aimons Dieu, que nous lui donnons la première place, la place la plus importante. Le fait d'être régulier dans sa vie de prière, le fait d'être régulier dans sa lecture de la parole de Dieu, le fait d'être régulier au culte, d'être régulier dans les services qu'on rend aux autres, le fait d'être régulier dans ce qu'on fait pour Dieu, c'est aussi une manière de grandir et de développer la piété. La piété, c'est donc un ensemble d'actes, des exercices en quelque sorte spirituels que nous posons. Ils nous permettent de développer justement cette manière de vivre avec Dieu qui est une manière qui l'honore, une manière consacrée à lui, une manière séparée du monde. Mais la piété ne s'exerce pas seulement que par les actes. Dans la partie que nous avons lue ici, la piété se développe aussi à travers l'attitude du cœur. C'est aussi des exercices qu'on doit faire par rapport à notre être intérieur. Il n'y a donc pas seulement les actes que nous posons, mais il y a aussi ce qui se passe au-dedans de nous. Nous avons à ne pas vivre notre vie sans avoir cet effort d'introspection et de se poser les questions de où en sommes-nous? Comment marchons-nous? Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop regarder à qu'est-ce que je fais, comment j'avance, comment où est ma vie, où j'en suis avec ma vie au niveau intérieur. Pour que la piété soit une réalité dans nos vies, il faut aussi que nous posions, que nous agissions aussi au niveau de notre être intérieur. C'est un ensemble d'exercices qui consiste dans les soins de notre être intérieur. L'homme pieux, la femme pieuse, c'est celui ou celle qui veille sur sa vie intérieure, qui ne laisse pas sa vie intérieure être perturbée par n'importe quoi, qui ne donne pas la place aux choses qui vont perturber sa relation avec Dieu. Je sais que dans notre société d'aujourd'hui, nous mettons beaucoup en exergue les souffrances des gens, les perturbations qui ont jalonné notre existence. On parle trop de nos misères et beaucoup de gens s'appuient sur tout ce qui a été les faiblesses, les difficultés, les combats de leur vie pour dire, vous voyez, je suis comme ça, acceptez-moi comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Il est vrai que certains combats de nos vies ne sont pas des combats pour un jour, ni pour 10 ans. Parfois, certains combats, c'est toute la vie. Mais c'est un devoir spirituel que de veiller sur son être intérieur, de regarder comment il fonctionne. À travers ce texte, j'aimerais épingler deux choses à développer, à bannir de notre vie. La première chose qu'il faut bannir dans notre vie, c'est l'accumulation des richesses. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ici, c'est une question de mesure. Ce n'est pas une question de dire, est-ce qu'on a le droit ou pas d'être riche? C'est pas ça. Pas ça du tout. Est-ce que quelqu'un qui travaille et qui a la grâce de faire un boulot où franchement il brasse beaucoup d'argent, doit-il se dire, oh zut, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça? Non! C'est pas ça. C'est une question de mesure. Regardez le texte. Il dit, ne vous amassez pas des trésors. Quand j'étais gamin, j'ai reçu, à l'âge de 10 ans, à ma première communion, oui, j'étais catholique avant. Enfin, ouais, voilà. Alors, j'ai reçu une collection des aventures de Tintin. À l'époque, c'est en 1975, quand j'avais 10 ans. Il n'y avait pas encore les 60 et des qu'on a des Tintins. Il y en avait encore quelques-uns, je ne sais pas si c'était 22 ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, j'ai reçu la collection des Tintins. Et celui qui m'a le plus attiré l'attention, c'est Tintin et le trésor de Rackham le Rouge. Ah ça, je l'ai lu, hein. Rien que de voir trésor, wouh! J'ai lu puisque je voulais savoir de quel trésor il s'agissait et c'était tout un monde où on te conduit à la recherche de ce trésor. Il était là-bas, il y a un type qui avait un document, une lettre, il faut aller voir, il y a un bateau et oh, bon voilà, le trésor. Vous remarquerez que chaque fois qu'on parle de trésor, c'est toujours quelque chose auquel on est prêt à tout sacrifier pour l'avoir. Oui ou non? Si vous apprenez qu'il y a un trésor quelque part, vous allez d'abord, un, veiller à ce que vous soyez le seul à le savoir. Parce que, faut pas trop le dire, sinon qu'est-ce qui se passe? On sera très nombreux, hein. Non. J'apprends qu'il y a un trésor quelque part enfoui dans cette église, je ferai tout pour acheter ce bâtiment. Je dirai jamais à personne pourquoi je vais acheter ce bâtiment. Comme ça, je peux creuser et prendre le trésor. Le trésor, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et qui prend une importance démesuré dans notre vie. Quelque chose pour lequel on est prêt à tout lâcher. Il n'y a plus rien d'autre qui est plus important que ce trésor. Il s'agit de cette accumulation-là. Le matérialisme qui caractérise notre société d'aujourd'hui est un matérialisme qui justement prône le fait que toute notre vie n'a de sens que si nous avons des biens matériels. Alors les gens s'échinent à travailler, ils dépensent beaucoup d'énergie, parfois ils nuisent à leur santé pour avoir des biens. J'ai un oncle, quand je le visitais, parce que bon, je ne visite plus, et bien j'étais toujours embêté parce que avec ses amis, surtout quand il recevait ses amis, ils faisaient étalage de leur fortune. J'ai une maison à Uccle, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai un bateau, j'ai ce... Oh. Et je vais encore travailler l'année prochaine, je vais encore faire ceci, et je vais faire ça. Et bon, moi je disais, ok, c'est bien, mais moi j'ai un coat étudiant, j'ai quelques pantoufles, quelques baskets, quelques vêtements. Le gars, il parle de sa garde-robe qui fait je sais pas quoi, et il parle de ses voyages, bon. Mais c'est leur vie, une vie axée sur la recherche, l'accumulation des biens matériels. Dieu nous invite à bannir, à exclure la tendance à l'accumulation, à la recherche effrénée d'accumulation des richesses. Apprendre à utiliser la fortune, l'argent, uniquement pour ses besoins et pour glorifier Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas entrer dans la logique d'accumuler, d'être obsédé par l'accumulation des richesses? Le texte suivant le dit, parce que, au verset 21, là où est ton cœur, là où est ton cœur, c'est là où, pardon, là où est ton trésor, c'est là aussi que sera ton cœur. Je vais m'investir le plus possible pour les choses pour lesquelles mon cœur est intéressé. Et malheureusement, la possession excessive des richesses, l'obsession de s'enrichir, est quand même une aventure à risque, puisque on peut aussi être pillé, on peut perdre. L'histoire est remplie de ces hommes qui étaient très très riches et qui sont devenus très très pauvres. L'histoire est remplie de ces gens qui, les pauvres sont morts parce que des bandits sont rentrés chez eux et les ont tués pour prendre leur richesse. Quand c'est pas qu'on les a enlevés pour les torturer, pour qu'ils donnent leur argent. Non seulement donc, on accumule de l'argent, on est obsédé par ça, mais en plus on s'expose à toutes sortes de souffrances. En plus, Jésus oppose l'accumulation des richesses sur la terre avec l'accumulation de richesses au ciel. L'idée n'est pas qu'on ne doit pas s'enrichir. L'idée est que le centre d'intérêt de mon enrichissement, ça doit être moins la richesse matérielle, terrestre, que la richesse spirituelle. Je peux donc être riche, mais avoir cette pensée permanente pour accumuler des richesses au ciel et pouvoir être proche de Dieu. Et ce n'est pas incompatible qu'on soit très riche, mais qu'on soit aussi pieux. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il y a des hommes qui peuvent être très très riches et en même temps très pieux, très profond, avec une relation profonde avec Dieu. Ce texte nous invite à une réflexion. Regardez la suite du verset. Tout d'un coup, au verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Tiens. Mais qu'est-ce que ce texte vient voir avec une question qui concerne l'accumulation des richesses? C'est que ce texte répond à la question suivante. Comment discerner? Comment Pourrais-je être en mesure de discerner entre les biens terrestres périssables et les biens célestes qui sont permanentes? Comment je peux arriver dans ma vie à me dire, attention, ça, c'est les biens terrestres. Et dans la proportion qui m'intéresse, c'est trop. Et ça, par contre, ce sont les biens spirituels, les biens que je dois rechercher. L'humain n'a pas cette facilité de toujours bien distinguer les choses. On peut parfois les mélanger pour multiples raisons. Jésus nous invite à un exercice d'introspection personnelle. Il part d'un constat simple. Il dit que lorsque, si mon œil est en bon état, alors j'ai une bonne vision. Je vois bien. Je vois bien mon corps. Je vois bien les choses autour de moi. Si mon œil est mauvais, alors j'ai une fausse perception des choses. Je ne vois pas bien. Donc, on peut percevoir la vie avec une bonne vision, avec une bonne philosophie, mais on peut aussi percevoir la vie avec une fausse vision, une mauvaise façon de voir. Et ce texte nous invite à développer la perception, la bonne perception de la vie. Comment faire pour que ma vie, je puisse voir les choses de la bonne manière? C'est la question qui est posée ici et c'est ça qui permet alors que je puisse être allé de l'avant. Je voulais prendre appui sur une manière de faire. Dans ce texte, l'invitation qui nous est donnée, qui est sous-entendue, c'est que pour que je puisse bien percevoir les choses dans la vie, avoir une bonne perception des choses de la vie, pour pouvoir faire les meilleurs choix pour moi, il faut que je laisse Dieu agir dans mon cœur, que je développe cette vie avec Dieu. Alors, le psaume 139, le verset 24 que nous connaissons parce que nous le chantons parfois. J'ai oublié alors l'autre partie au-dessus, 23 alors. Je vais mettre le 23 aussi. Voilà. Ici, ça va encore. J'ai moins de problèmes avec les décalages de versets. Quand j'étais à Wavre, c'était terrible. J'avais des décalages de 2-3 versets comme ça. Alors, tu as l'air un peu... qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est une prière à faire. C'est une prière à faire, c'est un exercice à faire. Se laisser sonder par Dieu. Laisser l'Esprit de Dieu me sonder. À travers les Écritures. À travers la prière. Et quand j'ai prié, être attentif à comment Dieu me parle. Parfois Dieu va se servir des gens autour de moi. Certains reproches que les gens me font. Certaines remarques. Certains événements. Peuvent être une manière à Dieu de nous répondre et de nous dire « Attention !» Moi, dès le début de ma conversion, j'ai appris une chose. Quand les gens me donnaient des avertissements, je m'arrêtais et je réfléchissais. Si c'était valable ou pas. En général, quand on donne des avertissements, on donne des remarques, des reproches, on a à s'arrêter et à se dire « Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est valable? » Parce qu'on peut, avec l'orgueil, avec l'indifférence, avec notre façon d'être, de courir dans la vie, on peut ne pas écouter les avertissements. Sonde-moi, ô Dieu. Voilà une prière à faire chaque jour. Seigneur, sonde-moi. Connais mon cœur dans sa vérité, dans sa façon d'être du vrai. Mets-moi à l'épreuve, connais mes pensées, parce que dans mon cœur, ce sont mes pensées qui vont me conduire dans un sens ou dans un autre. Et si je suis sur une mauvaise voie, remets-moi sur la bonne voie. C'est à ce moment-là que je suis en mesure de pouvoir discerner entre les intérêts matériel terrestre et l'intérêt matériel spirituel. Et vous remarquerez une chose, il faut donc avoir du courage pour chaque jour choisir pour Dieu. Chaque jour dire, attends, ce que je pense, pourquoi ne pas d'abord vérifier si c'est bien dans la pensée biblique, si c'est bien dans la volonté de Dieu. Ce que je veux faire là, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient honorer Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui vient pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui me maintiendra dans la relation avec Dieu ou pas? C'est un exercice spirituel important à faire chaque jour. Et vous remarquez que lorsque je prends acte de choisir chaque fois, non pas d'accumuler des biens matériels, de omnibuler par ça, mais plutôt des biens spirituels, alors aussi ça a une conséquence sur le plan pratique. Je suis en mesure de savoir qui servir. Je ne serai pas tiraillé entre deux maîtres. Je ne serai pas en train de me battre. Je ne serai pas adultère. Deuxième, je veux juste éveiller l'attention, la réflexion, mais sans aller loin, parce que c'est un texte où il y a moyen de pouvoir aller loin. Mais réfléchissons à cela et prenons acte de ne pas être léger dans notre façon d'évaluer notre propre vie et notre marche avec Dieu. Deuxième exercice, deuxième domaine où nous pouvons faire grandir la piété, c'est le fait de cultiver la confiance en Dieu. C'est la suite de ce chapitre 6, à partir donc du verset... Tu peux remettre le texte, s'il te plaît? Matthieu 1, oui. Alors, c'est toi qui me demandais, moi je ne sais même pas. À partir du verset, au-delà du verset 25... C'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre vie. Cultivez la confiance en Dieu dans sa tête et dans son cœur. C'est une attitude aussi à développer pour nourrir positivement son homme intérieur et pour faciliter la piété. C'est un choix à faire. C'est un exercice difficile chaque jour, puisque on est exposé à des situations qui nous mettent à l'épreuve, qui mettent à l'épreuve notre foi. Mais c'est un exercice à faire chaque jour. Vous remarquez, il dit, c'est pourquoi. Verset 25. C'est ça, hein? Oui. C'est pourquoi je vous dis. Le c'est pourquoi est important parce que il y a des conséquences. Lorsque je fais un mauvais choix, lorsque je vis de la mauvaise manière, eh bien, ce qui se passe, c'est que je nourris une série d'angoisses, d'inquiétudes, d'anxiétés qui vient pourrir, en quelque sorte, ma vie et ma relation avec Dieu. Cultiver la confiance en Dieu. Dieu est digne de confiance, n'est-ce pas? Dans ce texte, la suite, je ne vais pas lire le mot à mot, mais vous regardez, il dit qu'il est capable de nous, il nous donne la vie, verset 26. Les animaux, ils s'aiment, ils ne s'aiment pas, mais Dieu s'occupe d'eux. Et nous valons plus que les animaux. Dieu nous donne la valeur, il nous donne la vie. Verset 27, les inquiétudes n'ajoutent rien à notre existence. Et de toute façon, ça ne sert à rien puisque Dieu s'occupe de nos besoins. Il veille sur nous, il veut nous combler. Donc, la confiance est basée sur des faits avérés. C'est un peu comme si j'ai un ami qui a tous les moyens et qui me dit, écoute, ces moyens sont à ta disposition. Et moi, je continue à dire, est-ce que vraiment, Est-ce que vraiment il va me le donner? Est-ce que vraiment je vais avoir? Dieu a mis tout en œuvre. Pourtant, ce qui fait défaut chez nous, c'est quoi? C'est la foi. La foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la confiance. La confiance en Dieu. Ce qui fait défaut, c'est que nous ne croyons pas que Dieu sait tout ce dont on a besoin et que Dieu peut pourvoir à nos besoins. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Comment apprendre à faire confiance à Dieu? Comment cultiver la confiance en Dieu dans nos pensées, dans notre être intérieur? Je propose ici deux moyens. Premier moyen, il est dans ce texte, au verset au verset suivant donc. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premier moyen, c'est l'action. Quand j'agis, quand je m'investis pour Dieu, eh bien, je me mets en rapport où, dans mon cœur, je vais pouvoir réprimer tout manque de confiance, tout doute, puisque je suis dans l'action. Et l'action avec Dieu permet que lui me bénisse aussi en retour. Agir pour Dieu, travailler pour Dieu en cherchant sa justice, c'est une des premières solutions pour cultiver la confiance en Dieu. La deuxième, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9, c'est l'exhortation de Paul. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. La recette, elle est là. Pour cultiver la confiance, je dois combattre l'inquiétude. Je dois combattre l'inquiétude. Et je combats l'inquiétude comment? Par la prière. J'expose les sujets de mon inquiétude à Dieu d'une manière persévérante. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. J'essaie de faire habiter dans ma pensée les pensées qui sont dignes de Dieu. J'évacue les colères, les haines, les doutes, toutes ces choses, les frustrations, l'amertume, tout ce qui fait que je ne suis pas en mesure de conserver une bonne relation avec Dieu. Et quand je fais ça, je suis en route pour développer une vie pieuse avec Dieu. Vous savez, souvent, on ne se rend pas compte de cette histoire. J'ai parlé ici de travailler avec Dieu, de travailler par rapport au texte de Matthieu, chercher premièrement le royaume des cieux. Mais il y a un corollaire qu'on peut donner à ça aussi. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Tu l'as sur la liste? Non, ça c'est... C'est 11, hein? Ah bon? Mais, décidément, le texte, c'est 11, 28. Le texte qui dit, venez à moi, voilà. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà, c'était ça. Non, c'est pas grave. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, la suite dit, prenez sur vous mon joug. Ok? Car mon joug est léger. Voyez? Il y a un échange de fardeaux. entre le Seigneur et nous que nous devons faire. Lorsque je travaille premièrement pour le Seigneur, je prends un fardeau pour le Seigneur qui est léger pour moi. Parce que le Seigneur me permet de pouvoir le prendre et me facilite la tâche pour cela. Et lui, il prend mon fardeau d'inquiétude. Il prend mes soucis à moi. Et ainsi, je peux avoir la paix du cœur. Ce matin, je ne vais pas aller plus loin. Je m'arrête ici. Simplement pour rappeler que nous avons à travailler notre être intérieur. On ne doit pas le laisser vagabonder dans les pensées n'importe comment, laisser n'importe quoi envahir notre cœur. Nous devons être capables d'évaluer ce qui se passe au-dedans de nous à la lumière de la parole de Dieu, afin que nos pensées soient des pensées qui honorent Dieu. Nous devons vérifier en permanence l'état de notre cœur. Notre cœur ne doit pas être saturé, ne doit pas être rempli à exagérer avec des choses qui ne sont pas importantes. Il ne doit pas être assiégé par le souci de comment je vais pouvoir encore et encore et encore m'enrichir. Ça ne doit pas être assiégé par nos soucis. Mais tout cela, je dois apprendre à les dominer par la prière en confiant cela entre les mains de Dieu. Je dois apprendre à refuser toute invasion de ces mauvaises pensées. Je dois apprendre à compter sur Dieu, à lui faire confiance, même quand je ne vois rien se passer. Que le Seigneur nous aide à vivre cette vie d'ici-bas dans une intimité réelle et profonde avec lui. Et cette intimité prend toute sa force dans la piété, c'est-à-dire dans cet exercice permanent dans les actes, mais aussi dans l'attitude du cœur qui nous permet d'être toujours près du Seigneur. Parce que le plus près nous sommes avec le Seigneur, le plus puissant nous sommes comme témoins dans ce monde aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Je demande, Seigneur, qu'elle fasse la route dans le cœur des uns et des autres. Le peu que tu as mis à cœur que je dise, peut-être parfois avec des concepts difficiles, mais si tu l'as permis, Seigneur, tu sais aussi comment l'asseoir, l'imprégner dans les cœurs des uns et des autres. Seigneur, accomplis tes desseins glorieux dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.